Utopod 027, 28 janvier 2009, L'île close de Lionel Davoust, seconde partie. En partenariat avec la librairie IS, www.librys.fr. Hello tout le monde et bienvenue dans ce 27e épisode d'Utopod, un podcast en français qui vous propose des lectures de nouvelles de SF, de fantastique et de fantasy. Aujourd'hui, seconde et dernière partie du récit L'île close de Lionel Davoust, lu par Charlotte Raymondin, enregistré et monté par Sylvain Demière. Pour en savoir plus sur l'auteur et les divers intervenants de cet épisode, rendez-vous sur le site d'Utopod, www.utopod.com. Et maintenant, reprenez là où vos archétypes s'étaient arrêtés, croquez une nouvelle bouchée de pommes et place à la littérature.
Mordred. Quelle bande de pouilleux! Grogna le renégat en contemplant son armée de paysans hirsutes. De vilains, mon fils, de vilains! Tempéra Morgane. N'empêche, fit Mordred avec un reniflement dédaigneux, ils puent et puis ils sont sales. John Borman dans Excalibur me donne une vraie armée, lui.
Borman? Quel est donc ce chevalier?
Mordred jeta un coup d'œil à sa mère, qui n'était pas toujours Morgane la fée. Grande, puissante, d'âge indéfinissable, elle lui rendit un regard où se lisaient l'amour et la férocité. « Qu'importe, répliqua-t-il, je ne comprends pas comment je parviens à gagner avec une telle bande de sauvages mal nourris. » Morgan posa la main sur l'épaule de son fils en armure et souffla à son oreille. « Parce que tu as la vigueur de la jeunesse, mon fils. Un vent nouveau souffle sur l'île, une tempête qui jettera à bas le règne d'Arthur. » Oui, je sais, je suis l'archétype du changement, les forces de l'inconscient humain qui le poussent sans cesse à se dépasser, à surmonter ce qui les précède. Morgane l'admirait avec fierté, en haussant un sourcil surpris. Exactement, que tu parles bien, je n'aurais pas mieux dit moi-même. Mordred soupira. Ainsi, même une déesse est capable d'oublier. Combien d'entre nous se sont laissés abuser par le mirage de la conscience humaine et ont occulté notre nature de symbole? Il croqua dans une des pommes d'or qu'un espion rapportait régulièrement des jardins d'Avalon, puis l'attendit à Morgane. Il se prépara à s'investir à corps perdu dans son rôle, à s'y noyer avec l'énergie du désespoir. « On ferait mieux d'aller entraîner ces barbares, » dit-il avec dégoût. Déjeuner sur l'herbe. Les chevaliers vêtus de leur perpétuelle armure argentée, les dames richement vêtues de voiles en peau d'oignon, arpentaient le verger en devisant gaiement des événements du royaume, déjeunant avec entrain des fruits dorés qu'ils cueillaient sur les arbres. Arthur les observait, désabusés et non sans angoisse, à l'écart. Ne voit-il pas que ce royaume, que nos existences sont des fictions? Personne, par la guerre, ne devient grand, dit une voix grave dans son dos. Le roi sursauta et se retourna courroucé. Je déteste quand tu fais cela, Merlin. L'enchanteur, vêtu d'une longue bure, le visage parfois imberbe, parfois couvert d'une imposante barbe blanche, s'avança un long bâton à la main. « Cela fait partie de ma nature. Je suis le mystère. J'ai beau essayer, il m'est impossible d'approcher quelqu'un par devant. » Merlin rejoignit son roi et regarda à son tour la foule de Camelot. « Ils ont oublié, dit Arthur, ou plutôt ils refusent de se souvenir. » L'île s'amenuise quand nous ne le voyons pas, Merlin. Tous veulent partir, mais ils le nient. Lancelot a même prétendu n'avoir jamais cherché à quitter Avalon. Pourtant, c'est incontrôlable. Nous nous enterrons. Nous nous fossilisons. Nous avons besoin de dépasser notre symbolisme, mais notre forme est tellement figée que je crains qu'il soit trop tard. C'est une vraie... névrose. Quel bruit fait une seule main qui applaudit?
Je ne suis pas d'humeur pour les énigmes. Pardon. »
Merlin cueillit une pomme d'or à une branche basse. Alors que l'homme émergeait de la barbarie, qu'il s'éveillait à la civilisation, il eut soif d'idéal. Cette soif était si grande que l'inconscient collectif balbutiant a nommé, façonné, codifié les archétypes héroïques qui lui manquaient. Ni création, ni idée, quelque chose d'intangible entre les deux. Malheureusement, la geste est si puissante que rien ne peut la remplacer. Le mage sourit. Nous sommes surtout si humains que nous refusons de céder la place, répliqua Arthur. Nous préférons nous ancrer à ce misérable grain de poussière plutôt que d'aller voir ailleurs. Mais personne ne peut aller voir ailleurs, Arthur. Toi-même, quand tu meurs, quand tu quittes le royaume sur la barque funéraire pour gagner Avalon, c'est ici que tu reviens, puisque tu ne pars jamais vraiment. Alors, aide-moi.
Je ne sais pas de quoi tu parles, petit scarabée, bonjour.
Merlin quitta le roi en hâte, d'un pas raide, sans un regard en arrière.
Nous sommes tous limités par notre folie. Non loin de là, coiffé d'un chapeau de paille, juché sur une échelle, l'ombre taillait les pommiers dorés.
Trois petits tours et puis...
Puisque nous sommes limités par notre rôle, alors je pourrais essayer de faire n'importe quoi.
Songeait Arthur, désespéré, les mains derrière le dos en marchant sans but. Il atteignit le bord de la mer lac et ramassa une pomme jaunâtre à demi moisie. Un asticot pointa le bout de son nez à travers la chair ternie.
Être ou ne pas être. Sur l'île aux archétypes, quelle est la nature des vers?
Il lorgna l'animal. Et si je t'appelais Alexandrin?
Je pourrais moi aussi abandonner toute réflexion et me jeter à corps perdu dans les répétitions de la geste.
Ailleurs, quelque part, Arthur mourait, recevait l'épée de la Dame du Lac ou l'extirpait d'un rocher, rencontrait Guenièvre pour la première fois, blonde, brune ou rousse.
Le problème, c'est que j'en ai franchement marre et que tout le monde autour de moi devient zinzin.
Mû par une irritation subite, Arthur lança de toutes ses forces la pomme vers le banc de brume qui se rapprochait inexorablement d'Avalon Camelot. La grisaille l'avala goulûment. Bien sûr, le fruit revint par l'arrière et lui tomba sur la tête.
Dépité, le roi marmonna un vague « Eureka !» et n'y prêta pas plus d'attention. Il commença à déambuler d'un pas traînant le long de la rive. Faire n'importe quoi, pourquoi pas, au point où j'en suis. Il se mit à trottiner comme un enfant, tenta une roue et s'écroula sous le poids de son armure, cueillit une fleur et entreprit d'en arracher les pétales, elle-même un peu, beaucoup, passionnément, en pensant à Guenièvre, écrivit de la pointe d'Excalibur des insultes dans la poussière pour choquer les cieux. Rien ne se produisit. En nage, le regard sur la berge, Arthur reprit sa route, découragé.
Divaguer n'est pas une solution. Les autres divaguent bien, en vain. Je ne fais qu'agir en but à ma vision des choses. Ce n'est donc pas vraiment n'importe quoi, juste à la rigueur, l'inverse de ma nature profonde, ce qui en révèle tout autant sur moi-même.
Arthur repassa devant le verger où l'on déjeunait dans une insouciance éperdue. L'ombre descendit de son échelle, ôta son chapeau de paille et vint rejoindre Arthur pour marcher à ses côtés. Le roi ne remarqua rien. Il acheva son tour de l'île et revint à son point de départ avec la pomme moisie à terre. Ailleurs et en même temps, il épousait Guenièvre, découvrait la trahison de Lancelot, recrutait Perceval ou Galade. Je suis un code. l'incarnation d'un concept. Tragiquement, je ne suis que moi-même. Comment comprendre ce qui me manque si mes ailes sont rognées? La quête du Graal est avant tout un cheminement qui apporte la clarté à l'esprit, mais elle non plus ne peut nous apporter de réponse. Elle fait partie de la geste comme tout le reste. Elle appartient au système. L'ombre cheminée aux côtés d'Arthur, main ou manche jointe, la tête inclinée tel un moine dans son cloître. Ils repassèrent devant les arbres. Les chevaliers achevaient leur festin et retournaient au château. Le Graal est un symbole, lui aussi. L'esprit humain lui a donné la forme d'un objet à rechercher au sein d'une terre stérile, car c'était plus facile à appréhender. Mais finalement, tout n'est qu'apparence. Seule compte la signification des choses, ici. Arthur ramassa la pomme pourrie à terre, et en y pensant à peine, mordit. Commença à mastiquer méthodiquement la chair douceâtre, encore croquante par endroits. Déglutit le jus visqueux pressé par ses dents. Sentit l'arôme sucré de la corruption monter dans ses fosses nasales, étouffer son larynx, brûler les flancs de sa langue. Ignora les frétillements frénétiques des asticots descendant dans le royal gosier. Il acheva le fruit putréfié et pivota soudain vers l'ombre. Celle-ci hocha la tête en retour. Au loin, émergeant de la brume, un pont vaporeux et immaculé, tissé de lumière, dressait ses piliers évanescents, se manifestait peu à peu, gagnait la berge de l'île close. Quelque part, résonnèrent les premières mesures de O Fortuna dans Carmina Burana. Écrasé par la peur de l'au-delà, le roi tomba à genoux et vomit les terrifiants pépins de la réalité. Troisième voie. Les cadavres anonymes jonchaient la plaine de Camlan jusqu'à l'horizon. Un horizon pourtant fort proche. La mer léchait à présent le château sur trois côtés. Et avant la bataille, les deux armées ne s'étaient fait face qu'à quelques mètres l'une de l'autre. Pourtant, la charge épique de l'ultime bataille du règne arthurien avait semblé durer une éternité et les morts sans visage s'entassaient par milliers. Arthur, sa belle armure souillée d'écarlate, les cheveux et la barbe collés par la boue, la sueur et le sang, avançait en titubant parmi les râles des mourants, Excalibur au poing. L'épée poisseuse était si lourde à porter, plus encore que la couronne. La royauté résidait dans l'arme, dans la gloire divine et non dans le symbole des hommes. Une seule idée, une unique volonté poussait encore le roi au terme de son ère, trouver Mordred, sa trahison, l'héritier qu'il n'aurait jamais. « Mordred !» hurla-t-il sur la plaine. Le jeune homme au visage trop parfait pour être beau émergea de la fumée, sa lance sanglante à la main, et s'avança d'un pas chancelant, un rictus haineux sur les lèvres. « Je suis là, père !» gronda-t-il. Le vrai roi et l'usurpateur se rejoignirent au centre de la plaine de Camlan, parmi les vestiges d'une grandeur passée, au milieu du feu et de la mort, au bord des eaux noires, stygiennes. La geste touchait à sa fin, encore. Mordred poussa un râle animal qui crut en intensité. Dans un ultime effort brûlant de haine, il brandit sa lance prêt à commettre le parricide. Arthur écarta les bras et balança Excalibur au loin tel un vulgaire piquet. « J'abdique !» déclara-t-il. Il y eut un instant de flottement. Mordred resta immobile, comme s'il avait reçu un coup à l'estomac, puis se reprit. « C'est... une ruse. Tu essaies de remporter la victoire par félonie. Tu veux figer l'ordre établi. siffla-t-il entre ses dents serrées. « Non, je t'assure, » répondit Arthur, « j'en ai soupé de cette histoire, de ces motifs à qui une infinie répétition a prétendument conféré l'immortalité. L'inconscient humain a besoin, nous avons besoin d'évoluer. Mais je suis trop vieux, trop tourné vers l'ordre ancien pour offrir un pareil avenir. J'incarne la sagesse, toi le changement. À toi de monter sur le trône. Tu le voulais ?» Il ramassa Balmung et lui adressa un regard ambigu. « Tiens, prends mon phallus et rends à la terre sa fécondité. » Interdit, Mordred contempla l'épée sans la toucher. Il planta sa lance en terre et s'y appuya. Puis fronça les sourcils. « Je... » balbutia-t-il. Il regarda autour de lui les morts agonisants qui ne se tairaient qu'à la fin du combat, à la fin de la scène. Puis il revint à son père, plissa le front, toute haine éteinte. « J'en veux pas !» finit-il par dire avec une moue boudeuse. Arthur sentit le vertige le gagner et dévisagea son fils. « Mais tu le désirais tellement, tu dois mener le royaume à une ère nouvelle ? Qu'adviendra-t-il du monde, de l'île ?» Mordred haussa les épaules. « J'en sais rien, m'en fous !» Les mots s'écoulaient naturellement à présent, comme s'ils avaient attendu depuis toujours de mûrir en lui pour éclore et donner un sens nouveau à ses perceptions. « Je te faisais simplement la guerre parce que maman te haïssait, et parce que tu représentais tout ce que je n'avais pas et ce que je ne saurais jamais. Mais si tu me donnes tout, c'est une autre histoire, cela ne m'intéresse plus. Je ne veux pas devenir toi. » Père et fils, gênés, regardèrent leurs pieds armurés pendant un moment. « Comme ça ? Simplement ?» demanda Arthur d'une voix où perçait la panique. « Ouais, j'aime assez l'idée de tout envoyer balader sur un coup de tête, » répondit Mordred avec un rire cynique. Il s'assit sur un soldat qui émit une faible protestation. Plus respectueux, Arthur resta debout, pensif. « Je sais comment partir, » avoua-t-il enfin. « Mais je ne peux pas. J'ai des responsabilités envers le monde. » Une pause. Il prit une profonde inspiration. « Non, c'est faux. J'ai juste peur. » Mordred eut un sourire en coin. « Le monde, c'est nous. Et moi, j'en ai ma claque. Allez, » fit-il en se levant, « on se tire ensemble de ce trou de naze. Au fait, tu connais le type en noir qui nous fait des signes ?» Dessous. Dans les entrailles de l'île, très loin sous le château, au cœur de la terre, du dragon, l'ombre avançait entre les sculptures minérales, les colonnes unissant le sol au plafond. Dans les soubassements de l'inconscient collectif, il régnait une odeur de soufre. La silhouette parvint à un lac souterrain aux eaux totalement immobiles, un miroir insondable que le vent n'avait jamais troublé. La dame émergea de l'onde sans la rider, sans un embrun. Le lac sembla façonner sa silhouette liquide aux courbes insoutenables que recouvrait un voile tissé d'espace, d'étoiles et de temps. Dans la main droite, elle tenait l'épée du roi. Face à l'ombre, Elle prit pied sur la terre noire où fluctuaient des veines écarlates décrivant des motifs incompréhensibles. En une réponse muette, la cape de l'ombre s'affaissa, comme si les forces qui la soutenaient s'étaient soudain lassées. Avec à peine un froissement de tissu, l'étoffe tomba à terre, vide. Un serpent sortit des plis du vêtement et vint se lover autour des mollets de la dame. Par ses caresses sur son voile, par le flux des écailles sur sa peau, l'animal demanda « Vous l'avez retrouvé ?» La dame du lac traça du bout des doigts un complexe alphabet sur la peau du serpent. « Oui, malgré l'absence de son roi, Girflet est quand même resté aveuglément fidèle à la geste. Au terme de 3 allers-retours, il a lancé Excalibur dans l'eau. Mais il n'y a maintenant personne pour la réclamer, » lui répondit le serpent de quelques coups de langue à l'intérieur de ses cuisses. Arthur et Mordred ont quitté l'île. Ces contraires-là ont fini de s'affronter et, sans nier leur nature, ont retrouvé ensemble le chemin de l'évolution. « Oui, mais vers quoi ?» demanda la dame, flattant de manière plus insistante les écailles du serpent. « Je l'ignore, tout comme eux. Je ne suis que le jardinier. Ils ont emprunté le pont, mais sa destination reste masquée par le brouillard. » Le serpent remonta langoureusement vers l'aine, s'émissa plus avant sous le tissu. Les écailles fraîches firent courir un frisson le long de l'échine de la dame. On dit que le vrai roi reviendra un jour. Mais en ce cas, je crois qu'il n'aura plus besoin de cet étai. » Elle jeta un regard à l'épée souveraine, puis gloussa, tranchant le silence millénaire de la grotte. « Tu sais, Lucifer, un jour la conscience humaine n'aura même plus besoin du mystère que nous représentons, et l'oubli des mythes mettra ses cavernes au grand jour pour en élucider tous les secrets. » Le serpent s'arrêta. « Ce temps n'est pas encore venu. J'admets que nous ne sommes que des outils, mais il reste tant d'archétypes sur l'île à n'avoir pas percé le mystère des pommes d'immortalité. » Avant de céder à la froide sensualité du porteur de lumière, la dame lui répondit d'un ultime frôlement, en souriant sous son voile. « Oui, mais il se passe tout de même quelque chose dans la conscience humaine. »
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Plus d'infos sur les auteurs et les comédiens d'Utopod sur www.utopod.com. Si la science-fiction et le fantastique francophone vous passionnent, venez nous rendre visite sur le site pour découvrir de nouveaux auteurs et de nouveaux livres. Et puis si le cœur vous en dit et que vous avez envie de soutenir le projet, vous pouvez également faire un petit don en cliquant sur l'icône euro en bas de page. Je vous retrouve le mois prochain avec un texte de fantastique très émouvant écrit par un jeune auteur suisse de talent qui publie sa première nouvelle sur Utopod. Bye bye !